Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 20e épisode de JT Sport, le podcast étudiant qui revient sur l'actualité sportive de la semaine. Au menu du jour, la performance des clubs français en Coupe d'Europe la semaine dernière. Le PSG devait l'emporter à Barcelone, idem pour l'OM devant son public. On fera le bilan avec Thomas. Pour la suite, on restera au Vélodrome avec Enzo pour son régional. Toulon-Toulouse, c'était samedi soir à Marseille exceptionnellement. On reviendra sur ce choc de top 14. Juste après une session de rattrapage de l'actu en bref avec Agnès, avec du hand, du rugby et de la F1 notamment au programme. Et puis les playoffs de NBA, c'est en ce moment. Pour vous, Arthur s'est mis à l'heure américaine pour vous proposer sa carte blanche. La semaine dernière, on a franchi le pas, on est désormais à J-100 avant les JO. On met les voiles, cap sur les JO, en fin d'émission avec Clément. Et puis pour finir, notre traditionnel quiz, on jouera tous ensemble avec l'actualité sportive. Allez, on ne perd pas une minute de plus, EJT Sport épisode 20, c'est maintenant. Thomas, les clubs français ont brillé en Coupe d'Europe cette semaine. Le PSG était en ballottage défavorable, mais a renversé le FC Barcelone en Ligue des Champions alors que l'OM a éliminé Benfica.
Tout à fait. Qui a dit que nos clubs français ne pouvaient pas rivaliser avec les plus grands d'Europe ? L'OM et le PSG, rivaux de toujours, sont tous les deux en demi-finale. Les Parisiens, eux, avaient un déplacement compliqué à gérer. Un match face au FC Barcelone en Espagne. Il avait mal débuté, concédant l'ouverture du score rapide par Rafinha. C'est le carton rouge du défenseur Ronald Araujo dès la 30e minute de jeu qui a totalement changé le match. Ça a forcément facilité la tâche aux Parisiens qui égalisent avant la mi-temps avant de dérouler en seconde période et de gagner 4-1 la partie. 6-4 sur les deux rencontres, la qualification est assurée.
Et Thomas, tu vas nous parler d'un joueur qui t'a bluffé sur ce match.
En septembre 2022, souvenez-vous, le PSG a trois nouveaux milieux de terrain. Carlos Soler, Fabián Ruiz et Vitinha. Alors si les deux premiers ont encore du mal aujourd'hui, c'est le troisième qui a réalisé un match plein mardi. Le Portugais est aujourd'hui à son meilleur niveau, comme le démontre son but. Le deuxième d'ailleurs du PSG qui le remet à hauteur du Barça sur l'ensemble des deux matchs. Une activité débordante, une condition physique au point et surtout une qualité technique et une vision de jeu qui a beaucoup aidé son équipe. Alors ne le comparons pas trop vite s'il vous plaît à Verratti, mais ce joueur monte en puissance et si aujourd'hui le club est en demi-finale de Ligue des Champions, il le doit grandement à son numéro 8.
Et on part dans le sud maintenant, où Marseille a aussi brillé dans un vélodrome incandescent, une victoire 1-0 et un dénouement au bout de la nuit.
Un tout petit but de retard qui a mis bien du temps à arriver. Les Marseillais ont poussé, dominé, mais sans vraiment avoir d'occasion franche. Il aura fallu que la délivrance vienne de Faris Moumbagna, parfois maladroit techniquement, mais ô combien précieux dos au but. L'ouverture du score à la 79e minute de jeu envoie les deux équipes vers des prolongations. L'OM, qui a poussé pendant tout un match, termine la rencontre sur les rotules. Deux minots disputent même leur première minute en pro, faute d'un banc mieux garni. Je vais m'attarder notamment sur Gaël Lafont, ce minot de 17 ans à peine, qui brille avec les jeunes en Coupe Gambardella. Un deuxième du centre de formation entre aussi sur le terrain. Daou, 19 ans et première apparition avec le groupe pro. Un milieu composé de deux jeunes pour finir la rencontre et surtout tenir la baraque.
Et au final, une séance de tirs au but qui a fait chavirer le Vélodrome.
Absolument. Ce sublime volcan s'était déjà embrasé sur l'ouverture du score. Il a véritablement explosé lors de la séance de tirs au but. Petit récap, sur les 4 tireurs olympiens, on a 2 entrants qui n'ont disputé que 10 matchs en moyenne cette saison, un milieu défensif qui n'a pas marqué de l'année et surtout Leonardo Balerdi. Je vais m'autoriser une petite note personnelle en m'excusant parce que longtemps, j'ai critiqué ses prestations, son excès d'agressivité, ses cartons rouges et ses bourdes. Parfois, à juste titre, je l'ai critiqué, mais jeudi soir, c'était grandiose. Un match plein, entouré de deux défenseurs à moitié blessés, des interventions justes, des relances précises et surtout, un tir au but marqué. Lui qui avait raté le sien l'année dernière contre Annecy en quart de finale de Coupe de France, il a pris sa revanche, tout comme Paulo Lopez, le gardien de but. Jamais vraiment adulé, successeur de Mandanda, le gardien a réalisé un arrêt lors de la séance de tirs au but et surtout trois parades décisives pendant le match. Au bout de la nuit, c'est l'OM qui se qualifie grâce à ces deux hommes et va disputer sa 8e demi-finale de Coupe d'Europe de son histoire.
Et merci Thomas, le PSG pour sa part affrontera Dortmund les semaines du 1er et du 6 avril. L'OM, tu viens de le dire, se frottera au tombeur de Liverpool, l'Atalanta Bergame quand même, sur les mêmes semaines. C'est maintenant l'heure du Régional. « Après la nuit magique en Europa League jeudi, le Vélodrome était une nouvelle fois en feu pour accueillir un match de top 14 samedi soir. Il y a eu de la frustration et de l'indiscipline, Enzo, mais au final, le Stade Toulousain a perdu face au rugby club toulonnais 20-19.
Ce n'était pas un grand match de rugby, mais un match avec du caractère. Le Stade Toulousain a perdu face au rugby club toulonnais. Alors, il a manqué un peu de tout. Une équipe remaniée certes, mais qui avait réussi à s'imposer face à Clermont. Deux pénalités et une transformation ratée par Thomas Ramos, les Toulousains sont ceux qui ont le moins bien joué entre les deux équipes. Malgré une bonne entame de match avec un essai du français Lucas Tauzin, les hommes du Gomola ont manqué de discipline et de caractère pour attraper la victoire. On les a sentis dans le match dès le début en prenant l'axe du terrain avec un Eti chaud bouillant. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à garder le ballon et ils l'ont payé cash.
Et avec du courage et du cran, le RCT a su donner le tempo, même à 14 contre 15.
C'est comme une évidence, hein, au Vélodrome, c'est toujours Toulon qui gagne. Alors non pas seulement que ce soit le vrai club rouge et noir, mais parce qu'il a fallu du caractère pour l'emporter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors après un plaquage à la tête d'Alain Nuezé qui lui a valu un carton rouge juste avant la mi-temps, le RCT n'a pas fait un match parfait, mais a réussi à s'imposer avec un joueur en moins. J'aimerais aussi parler du maître du jeu qui a fait son retour, Baptiste Serin. Je note la première titularisation du demi-d'ouverture italien Paolo Garbisi, mais la nouvelle certitude côté toulonnais c'est Leicester Fagainoukou et il est en train de s'imposer comme un joueur clé du 15 de Mignoni, auteur de deux essais. Le Tongien qui joue pour les All Blacks rentre dans le top 10 des meilleurs marqueurs de la saison. Avec 11 matchs joués et 7 essais marqués, le 3 carrés le toulonnais place le club de la Rade comme la deuxième meilleure attaque de ce top 14. Les joueurs du Gomola repartent tout de même avec le bonus défensif et comptent 61 points. Ils accueilleront un Racing brillant face à Oyonnax, 13 à 43, avant de disputer une demi-finale de Coupe d'Europe au Stadium face aux Harlequins. Côté toulonnais, cette victoire les propulse à la 4e place. Les Varois se déplacent sur la pelouse de La Rochelle avant de recevoir l'ancien club de Pierre Mignoni, le Loup.
Et on retiendra donc que les deux échéances à venir sont très importantes pour les deux clubs. Merci Enzo, et on passe tout de suite au bref. Et un nouveau week-end de sport vient de se terminer. Agnès, tu vas nous résumer tout ça en commençant par un record.
Et oui Pierre, 6m24, c'est le nouveau record du monde de saut à la perche. C'était samedi soir dernier lors des finales de la Ligue de Diamants d'athlétisme en Chine. Le Suédois Armand Duplantis a battu son propre record du monde de 6m23. C'est une victoire de plus pour Max Verstappen. Le pilote de Red Bull s'est imposé sur le GP de Chine pour la première fois de sa carrière. Une course maîtrisée qui lui permet de remporter son 4e GP de la saison. Lando Norris et Sergio Pérez complètent le podium. Les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly finissent quant à eux à la 11e et 13e place. Le H s'impose, le club de handball nantais sorti victorieux de la finale de Coupe de France face au PSG. Une défaite 31-23 pour Elohim Prandi et ses coéquipiers. Un PSG méconnaissable et une équipe nantaise en place qui fait mal à l'équipe adverse. Nantes remporte sa 3e Coupe de France et se tourne déjà vers le match aller des quarts de finale de la Ligue européenne qui aura lieu le 23 avril à Berlin. Les Bleus cartonnent dans le tournoi des 6 nations. L'équipe de France de rugby a remporté son 4e match du tournoi 40-0 face au Pays de Galles. Une large victoire sans surprise qui permet aux Bleus de rester invaincus dans le tournoi. Les joueuses de Gaël Mignot et David Ortiz joueront la finale du tournoi samedi prochain face à l'Angleterre, grande favorite. Pogacar toujours devant, le Slovène sort vainqueur de Liège-Bastogne-Liège pour son retour à la compétition. Il remporte la doyenne pour la 2e fois de sa carrière devant le Français Romain Bardet et le Néerlandais Mathieu Van Der Poel. La course féminine a vu s'imposer l'Australienne Grace Brown sur un sprint de fin de course.
Et merci Agnès, on parle basket maintenant avec la carte blanche. Ça y est, les play-ins ont rendu leur verdict et les play-offs ont pu commencer. Aujourd'hui, Arthur nous fait un état des lieux au lancement de ces phases finales du basketball américain.
Bon, déjà pour bien commencer, je vais vous présenter les différentes équipes sur la ligne de départ. Parce qu'au lancement des play-ins, on ne savait pas qui de Sacramento, de Golden State, des Lakers ou de la Nouvelle-Orléans allait se qualifier pour les play-offs à l'Ouest. Deux tickets pour quatre protagonistes, il allait forcément y avoir des déçus. Idem à l'Est où les Sixers et le Heat s'affrontaient dans le match pour la 7e place, tandis qu'Atlanta et Chicago tentaient de s'offrir un match pour la 8e place face aux perdants du Sixers Heat.
Alors dis-moi Arthur, qui a finalement réussi à tirer son épingle du jeu et qui sont les déçus ?
La plus grosse déception est sans doute pour les fans des Warriors. Golden State est sorti dès le premier match, perdu 118 à 94 face à Sacramento dans un remake du premier tour de l'année passée. Malgré cette victoire, il n'y aura pas de playoff non plus pour Sacramento. éliminé après sa défaite face aux Pelicans de New Orleans. Et ce sont donc les Lakers qui récupèrent la 7ème place après une victoire en toute fin de match face à ces mêmes Pelicans. Ces derniers sont qualifiés en tant que 8ème alors même qu'ils étaient encore 6ème à une journée de la fin. Ils pourraient regretter cette aventure en play-in puisqu'ils ont perdu Zion Williamson. Énorme face aux Lakers avec 40 points. Il est malheureusement sorti sur blessure et n'a pas pris part au second match du play-in. Allez, c'est un peu la même histoire pour le Heat. Ils se sont d'abord inclinés face aux Sixers qui prennent la 7ème place. Ils ont ensuite fait le boulot à la maison en s'imposant face à Chicago, mais ils se retrouvent privés de Jimmy Butler, blessé au genou. Rien de très bon alors que Boston se dresse sur leur route.
Bon, et à l'entame de ce premier tour, qui te semble en position favorable à l'Est pour commencer ?
On vient d'en parler, les Boston Celtics. Face à un Miami diminué, la meilleure équipe de la Ligue va pouvoir se mettre en route à son rythme. D'autant qu'au tour suivant, l'adversité ne sera probablement toujours pas suffisante pour faire tomber la machine Celtics et ses 64 victoires. Ils retrouveront le vainqueur de la série entre Cleveland et Orlando, deux équipes très défensives, mais dont le plafond semble limité.
Et avec 10 équipes au-dessus des 46 victoires cette saison quand même, l'Ouest a témoigné d'un niveau particulièrement relevé et dense. Ça doit pas être facile de tirer un favori de tout ça, j'imagine.
Effectivement, dans un Ouest au visage renouvelé, mais où les stars les plus expérimentées continuent de rôder, pas facile de dégager un clair favori. Pourtant, il reste une valeur sûre. Le champion en titre, les Denver Nuggets. Impossible de parier sa maison sur le fait qu'ils soient en finale NBA en juin, mais ils partent tout de même avec une longueur d'avance. Ils ont l'avantage de l'expérience de groupe et de la continuité. Jokic a de bonnes chances de remporter un troisième MVP. Murray est en bonne santé. En gros, à Denver, on prend les mêmes et on recommence. Et si l'adversité n'a pas élevé son niveau de jeu, l'issue devrait être la même. Une bague pour les Nuggets. Alors bien sûr, les Lakers seront un gros morceau dès le début. Les Angelinos espèrent pouvoir prétendre à nouveau à un titre, mais je les pense trop courts. Avec une adversité moins élevée au premier tour, j'aurais dit pourquoi pas, mais de là à faire déjouer Denver, ça me semble compliqué. D'autant qu'ils ont perdu le premier match ce samedi.
Et donc parmi les favoris, tu me cites même pas OKC ou les Wolves qui ont fini top 3, les Bucks de Giannis et Lillard, les Mavericks de Doncic ou les Clippers de Kawhi.
Bien sûr, ce sont tous de sérieux candidats, mais ils ont aussi tous leurs faiblesses. Pour OKC et les Wolves, les ambitions sont réelles, mais ce sont des groupes qui restent peu expérimentés et il faudra voir comment ils réagissent lorsque la pression se fera sentir. Les Clippers vont aller aussi loin que les blessures le leur permettront. Kawhi a raté le match 1 et même si Los Angeles s'est imposé à domicile, sa forme physique inquiète. Pour Dallas et Milwaukee, c'est un peu différent. À l'Est, les Bucks peuvent se frayer un chemin jusqu'en finale de conférence. Il faudra passer Indiana, puis les Knicks ou les Sixers. Mais cette année, ils ne font plus figure d'immenses favoris comme par le passé. Il va falloir scruter l'association Giannis Lillard en playoff pour sa première année. La défense est clairement moins bonne. Middleton et Brook Lopez sont vieillissants. Bref, il y a encore beaucoup d'interrogations. À Dallas, l'association Kyrie Doncic ne pose plus vraiment question et la dynamique est meilleure. Mais l'Ouest est redoutable et le parcours sera semé d'embûches, à commencer par ce premier tour face aux Los Angeles Clippers, qui a donc débuté par une défaite.
Et donc on retiendra que Boston est le clair favori à l'Est avec des outsiders, les Bucks, les Sixers ou les Knicks, et à l'Ouest la meute de prétendants semble dominée par le tenant du titre Denver. Merci beaucoup Arthur, on passe au JO.
C'est mieux, allez la deuxième main, c'est bon.
Énorme.
C'est bon pour Oriane Burton qui prend la première place de cette finale.
Aujourd'hui, Clément, tu vas nous faire prendre de la hauteur avec un focus sur l'escalade.
Alors pour commencer, une petite présentation s'impose. C'est une très jeune discipline olympique, au jeu depuis 2020 seulement. Elle est divisée en trois épreuves. D'abord l'épreuve de vitesse, un face-à-face entre deux athlètes qui doivent grimper un mur de 15 mètres le plus rapidement possible. Ensuite, on a le bloc. Les concurrents doivent grimper un maximum de petits parcours en un temps limité. Et enfin, la dernière épreuve, la difficulté. Les athlètes doivent grimper des parcours de 12 mètres où le temps et la chute sont éliminatoires. Au Japon, ces trois épreuves étaient cumulées pour former un combiné, mais petit changement cette année à Paris, la vitesse sera une épreuve à part.
Bon, maintenant qu'on a posé les bases, tu vas nous parler des chances de médailles françaises, bien sûr, à commencer par les filles.
Parlons d'Oriane Burton. Elle a tout pour atteindre les sommets à Paris. Pour faire simple, la niçoise de 19 ans est une véritable prodige de sa discipline. Elle débute l'escalade à l'âge de 8 ans avec son père et sa sœur et fait rapidement parler d'elle. Dès l'âge de 12 ans, elle grimpe le bloc Golden Shadow à Rocklands en Afrique du Sud, côté 8B+, la quatrième valeur la plus haute sur une échelle de 24 en escalade. Sélectionnée en équipe de France de bloc à seulement 16 ans après avoir été surclassée en senior, elle est médaillée d'argent pour ses deux premières participations en Coupe du Monde en 2021. Après le bronze européen en 2022 à Munich, la grimpeuse d'origine italienne est devenue vice-championne du monde de bloc en août 2023, deux mois après s'être offert le luxe de battre la championne olympique en titre en Coupe du Monde. Pour préparer les Jeux et lancer au mieux son année 2024, Oriane a passé son intersaison dans les montagnes réunionnaises. Résultat, un deuxième titre consécutif de championne de France de bloc en février et un objectif bien clair pour les Jeux, la médaille d'or.
Bon, et chez les hommes alors ?
Eh bien chez les hommes, on a aussi affaire à un prodige en la personne de Mehdi Chlak. Natif de Montreuil, il a découvert l'escalade après avoir déménagé à Chambéry. Et il faut dire qu'il ne s'est pas trompé. Comme Oriane Berton, Mehdi Chlak a rapidement été surclassé en senior et remporte une médaille d'argent en Coupe du Monde de bloc à 17 ans en 2021. Depuis, c'est 3 médailles d'or en Coupe du Monde et une médaille de bronze aux Jeux mondiaux. Autant vous dire qu'à seulement 19 ans, notre grimpeur français ne viendra pas au Bourget pour faire de la figuration. Mais je ne peux pas terminer ce cap sur les JO sans parler des frères Mawem. Bassa, 39 ans, et Michael, 33 ans. Les Guyanais sont des monuments de la discipline en France. Bassa, l'aîné, est septuple champion national et détient même le record olympique de vitesse établi lors des qualifications juste avant sa blessure qui l'avait privé de la finale à Tokyo. Ils partiront à la retraite après les Olympiades et malgré leur fin de carrière, pourquoi pas rêver d'or ?
Eh ben on espère un maximum de médailles sur les murs du Bourget hein, cet été. Merci Clément, c'est désormais l'heure de notre traditionnel quiz.
Ah oui, la bonne courage. Qui est meilleur ? Qui est meilleur ?
C'était meilleur.
Ah, si il est un peu répond parce qu'il est...
Excusez-moi, je m'énerve, mais parce que des fois il me gonfle.
Eh ben vous l'attendiez tous, il est là, le traditionnel quiz de fin d'émission. J'espère que vous avez tous bien révisé. À mes côtés, à ma gauche, Clément et Arthur, comment ça va ?
Ustre !
Ça va tranquillement, on va les battre.
Et à ma droite, Thomas et Enzo, la team marseillais, est-ce que vous êtes prêts ?
Bien sûr, toujours prêts.
On va les défoncer.
Eh ben on commence par une question foot, justement, on en a parlé tout à l'heure. On a deux clubs français en demi-finale de Coupe d'Europe. C'était en quelle année la première fois ? La première.
90.
2003.
90, très très bonne réponse.
Et oui.
Les deux clubs, qui y étaient ?
Non, je ne les ai pas.
Bah, y a l'OM.
Y a l'OM.
Bordeaux, et Paris, Paris.
Monaco, c'était.
Ah.
C'était pour du bonus. Un point pour ma droite, Enzo et Thomas. On continue. En quelle année, pour la dernière fois, un Français a remporté le Liège-Bastogne-Liège ?
2015.
C'est bien plus vieux.
1980.
80, exactement. 80, à ma gauche, c'était Bernard Hinault.
Bernard Hinault, j'allais dire.
T'allais le dire ?
Le bon, blaireau.
Dans tous les cas, ça fait un partout.
Sûr, ouais.
En tennis maintenant, Gabrinje Muguruza, je le fais avec l'accent, pourquoi pas, est partie à la retraite. Quel titre a-t-elle remporté en tournoi majeur ?
Roland-Garros 2016. Premier,
il y en a un
Wimbledon 2017.
J'ai dit Wimbledon avant. Hein. Il a dit Roland-Garros, mais j'ai dit Wimbledon. Hein.
Il y avait les années aussi, franchement. Fallait avoir les années. Moi, je mets 2-1 à ma gauche pour Arthur et Clément.
Il dit dans l'ordre, en plus.
Petite remontada. Il y a eu un nouveau record mondial ce week-end au marathon de Londres féminin. En combien de temps Pérez Jepchirchir a-t-elle signé son marathon ?
2h03 ? 2h04 ?
Plus.
2h05 ?
2h07 ?
Plus.
2h11 ?
2h13 ?
2h16 ?
2h15 ?
2h16 ?
J'ai dit 2h16,
non ?
T'as dit 2h16 ?
Oui, je l'ai dit avant !
Ah, j'ai pas entendu.
J'ai fait 17 !
Attendez !
Oui !
La VAR attribue le point à droite, ça fait 2-2.
2-2,
question décisive, messieurs, tout le suspense est dans cette cinquième question. Concentration. C'était le retour du Grand Prix de Chine ce week-end qui n'a pas eu lieu depuis 2019. C'était, en 2019, le combientième Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 ?
49e.
Le millième.
Oh non ! Bien joué !
La victoire de Clément et Arthur à le terme de ce quiz au suspense haletant. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Le JT Sport épisode 20, c'est terminé. Merci à tous.